Chapitre 28. La fête. Le meunier était retourné à la danse, espérant y retrouver Rose, débarrassée de ce qu'il appelait dédaigneusement sa cousinaille. Mais Rose boudait contre ses parents, contre la danse et un peu aussi contre elle-même. Elle avait des remords de ne pas se sentir le courage d'affronter les brocards de sa famille. Son père l'avait prise à l'écart le matin. Rose, lui avait-il dit, « Ta mère t'a défendu de danser avec le grand Louis d'Angimau. Moi, je te défends de lui faire cet affront. C'est un honnête homme, incapable de te compromettre. Et d'ailleurs, qui pourrait s'aviser de faire un rapprochement entre toi et lui. Ce serait trop inconvenable, et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas supposer qu'un paysan oserait en compter à une fille de ton rang. Danse donc avec lui. Il ne faut pas humilier ses inférieurs. On a toujours besoin d'eux un jour ou l'autre. Et on doit se les attacher quand ça ne coûte rien. » Mais si maman me gronde, avait dit Rose à la fois heureuse de cette autorisation et blessée du motif qui la dictait. Ta mère ne dira rien. « Je lui ai fait la morale, » avait répondu M. Bricolin. Et en effet, Mme Bricolin n'avait rien dit. Elle n'eût osé désobéir à son seigneur et maître, qui lui permettait d'être méchante avec les autres, à la seule condition qu'elle fléchirait devant lui. Mais comme il n'avait pas jugé à propos de l'instruire de ses vues, comme elle ignorait l'importance qu'il attachait à se conserver l'alliance du meunier, dans l'affaire diplomatique de l'acquisition du domaine de Blanchemont, elle avait su éluder ses ordres, et sa condescendance ironique était plus fâcheuse pour le grand Louis qu'une guerre ouverte. Ennuyé de ne pas voir Rose, et comptant sur la protection de son père qu'il avait vu rentrer à la ferme, grand Louis s'y rendit, cherchant quelque prétexte pour causer avec lui et apercevoir l'objet de ses pensées. Mais il fut assez surpris de trouver dans la cour M. Bricolin en grande conférence avec le meunier de Blanchemont, celui dont le moulin était situé au bas du terrier, juste en face de la maison de la Piolette. Or, M. Bricolin était peu de jours auparavant irrévocablement brouillé avec ce meunier, qui avait eu quelque temps sa pratique et qui, selon lui, l'avait abominablement volé sur son gain. Le dit meunier, innocent ou coupable, regrettant fort la pratique de la ferme, avait juré haine et vengeance à grand Louis. Il ne cherchait qu'une occasion de lui nuire, et il venait de la trouver. Le propriétaire de son moulin était précisément M. Ravalard, à qui le meunier d'Angibaud avait vendu la scalèche de Marcel. Heureux et fier d'essayer de montrer son carrosse à ses vassaux, M. Ravalard, tout en venant donner le coup d'œil du maître aux propriétés qu'il avait à Blanchemont, mais n'ayant pas de domestique qui sut conduire deux chevaux à la fois, avait requis les talents du patachon roux qui faisait le métier de conducteur du louage et qui se vantait de connaître parfaitement les chemins de la vallée noire. M. Ravalard était arrivé non sans peine, mais du moins sans accident, le matin de ce jour de fête. Il avait mis ses chevaux à son moulin et n'avait pas fait remiser sa carrosse afin que, du haut du terrier, tout le monde pût la contempler et savoir à qui elle appartenait. La vue de cette brillante calèche avait déjà fort indisposé M. Bricolin, qui détestait M. Ravalard, son rival en richesse territoriale, dans la commune. Il était descendu au chemin qui longe la Vauvre pour l'examiner et la critiquer. Le meunier Groschon, rival de Grand Louis, était venu lier conversation avec M. Bricolin, sans avoir l'air de se rappeler leur inimitié, et il n'avait pas manqué de le narguer adroitement en lui faisant comprendre que son maître était mieux en position que lui de rouler carrosse. Là-dessus, monsieur Bricolin, de dénigrer le carrosse, de dire que c'était une vieille voiture du préfet mise à la réforme, une brouette sans solidité, et qui ne sortirait peut-être pas de la vallée noire, aussi pimpante qu'il y était entré. Gourin Hochon de défendre le discernement de son bourgeois et la qualité de la marchandise, puis de dire que cela sortait de chez madame de Blanchemont et que le grand Louis avait été le commissionnaire de cette acquisition. Monsieur Bricolin, surpris et choqué, écouta les détails de l'affaire et sut que le meunier d'Angibault avait décidé monsieur Ravalard à s'emparer de cet objet de luxe en lui disant que cela ferait enrager monsieur Bricolin. Le fait n'était malheureusement que trop vrai. Monsieur Ravalard avait fait conversation tout le long de son chemin avec le Patachon. Celui-ci, habile à se ménager un bon pourboire, et voyant le bourgeois enivré de sa nouvelle voiture, ne lui avait pas parlé d'autre chose. Il n'y avait rien de plus beau, de plus léger, de plus aimable à conduire que cette voiture-là. Ça devait avoir coûté au moins 4 000 francs, et ça en valait le double dans le pays. Monsieur Ravalard, doucement flatté de cette naïve admiration, avait confié à son guide tous les détails de l'affaire, et ce dernier, en déjeunant au moulin de Blanchemont, en avait bavardé avec le meunier Groschon. Voyant là que grand Louis excitait la haine et l'envie, il avait envenimé la chose, autant pour le plaisir de jaser et de se faire écouter, que par suite de la rancune qu'il gardait au grand Louis pour l'avoir raillé cruellement le jour de l'aventure du Bourbier. Peu d'instants après que M. Bricolin eut quitté Groschon, le front plissé et l'air rogue, le dit Groschon vit entrer grand Louis et Marcel chez la Piolette. Ce rendez-vous, qui sentait le mystère, le frappa, et il se creusa la cervelle pour trouver là une nouvelle occasion de nuire à son ennemi. Il mit le Patachon en embuscade, et au bout d'une heure, il sut que le grand Louis, un inconnu qui avait l'air d'être un nouveau garçon de moulin engagé à son service, la jeune dame de Blanchemont et M. Taillant, le notaire, avaient été enfermés en grande conférence chez la Piolette. Ils en étaient tous sortis séparément et en prenant d'inutiles précautions pour n'être pas remarqués. Enfin, qu'il se tramait là quelque complot, une affaire d'argent à coup sûr, puisque le notaire s'en était mêlé. Groschon n'ignorait pas que cet honnête notaire était la bête noire et la terreur de Bricolin. Devinant à moitié la vérité, il se hâta d'aller informer complaisamment Bricolin de tous ces détails et de lui faire compliment de la manière dont son favori le meunier d'Angibault servait ses intérêts. C'est cette délation que grand Louis surprit en entrant dans la cour de la ferme. En toute autre circonstance, notre honnête meunier eût été droit à son accusateur et l'eût forcé à s'expliquer devant lui. Mais voyant un Bricolin lui tourner le dos brusquement, et Groschon le regarder en dessous d'un air sournois et railleur, il se demanda avec inquiétude quelle grave question pouvait agiter ainsi entre deux hommes qui, la veille, ne se seraient pas donné un coup de bonnet derrière l'église, c'est-à-dire qu'ils ne se seraient pas salués, en se rencontrant nez à nez dans le chemin le plus étroit du bourg. Grand Louis ne savait pas de quoi il s'agissait, ni même s'il était l'objet de cet aparté affecté. Mais sa conscience lui reprochait quelque chose. Il avait voulu jouer au plus fin avec M. Bricolin. Au lieu de le repousser avec mépris lorsque celui-ci lui avait offert de l'argent pour servir ses intérêts au détriment de ceux de Marcel. Il avait faim de transiger avec lui pour une ou deux bourrées avec Rose. Il lui avait laissé l'espérance, et pour se venger de l'outrage de ses offres, il l'avait trompé. Ben, je mériterais bien, pensa-t-il, que ma belle mine fût éventée. Voilà ce que c'est que de financer. Ma mère m'a toujours dit que c'était une habitude du pays qui portait malheur, et moi je n'ai pas su m'en préserver. Si je m'étais montré honnête homme à ce maudit fermier, comme je le suis au fond du cœur, il m'aurait haï, mais respecté, et peut-être craint davantage qu'il ne va le faire à présent, s'il découvre que je lui ai dit des paroles de marchoir. Oh, Louis, mon ami, tu as fait une sottise. Toutes les mauvaises actions sont bêtes. Puisses-tu ne pas boire la tienne ? Tourmenté, intimidé, mécontent de lui-même, il alla rejoindre sa mère sur le terrier pour lui proposer de la reconduire à Angibault. Les vêpres étaient finies, et la meunière était déjà partie avec quelques voisines, recommandant à Jeanne de dire à son maître de s'amuser encore un peu, mais de ne pas rentrer trop tard. Grand Louis ne sut pas profiter de la permission. Livré à mille anxiétés, il erra jusqu'au coucher du soleil, sans prendre goût à rien, attendant ou que Rose reparût, ou que son père vint lui faire connaître ses intentions. C'est à l'entrée de la nuit que les habitants du hameau s'amusent le mieux un jour de fête. Les gendarmes, fatigués de n'avoir rien à faire, commencent à reprendre leurs chevaux. Les gens de la ville et des environs grimpent dans leurs carrioles de toute espèce et s'en vont pour éviter les mauvais chemins de nuit. Les petits marchands plient bagages, et le curé va souper gaiement avec quelques confrères venus pour regarder danser, tout en soupirant peut-être de ne pouvoir prendre part à ce coupable plaisir. Les indigènes restent donc seuls en possession du terrain, avec celui des ménétriers qui n'a pas fait une bonne journée et qui s'en dédommage en la prolongeant. Oh là, tous se connaissent. Et une fois en train, se dédommage d'avoir été dispersé, observé et peut-être raillé par les étrangers. Car on appelle étranger dans la vallée noire tout ce qui sort du rayon d'une lieue. Alors, toute la petite population de la localité se met en danse, même les vieilles parentes et amies qu'on n'eût pas osé produire au grand jour, même la grosse servante du cabaret, qui s'est évertué depuis le matin à servir ses pratiques et qui retrousse son tablier enfumé pour se trémousser avec des grâces surannées, même le petit tailleur bossu qui eût fait rougir les jeunes filles en les embrassant à la belle heure et qui dit en fendant sa bouche jusqu'aux oreilles qu'à la nuit tous les chats sont gris. Rose, ennuyée de bouder, retrouva l'envie de se divertir lorsque tous ses parents furent partis. Avant de retourner à la fête, elle voulut voir la folle qui avait dormi tout le jour sous la garde de la grosse Chounette. Elle entra doucement dans sa chambre et la trouva éveillée, assise sur son lit, l'air pensif et presque calme. Pour la première fois depuis bien longtemps, Rose osa lui toucher la main, lui demander de ses nouvelles. Et pour la première fois depuis 12 ans, la folle ne retira pas sa main et ne se retourna pas du côté de la ruelle avec humeur. « Ma chère sœur, ma bonne bricoline, » répéta Rose, enhardie et joyeuse, « te sens-tu mieux ?»«
Me sens bien, » répondit la folle d'une voix brève.
J'ai trouvé en m'éveillant ce que je cherchais depuis 54 ans.
Et que cherchais-tu, ma chérie?
Je cherchais la tendresse. répondit la bricoline d'un ton étrange et en posant un doigt sur ses lèvres d'un air mystérieux. J'ai cherché partout, dans le vieux château, dans le jardin au bord de la source, dans le chemin creux, dans la garenne surtout. Mais elle n'est pas là, Rose, et tu la cherches en vain toi-même. Ils l'ont cachée dans un grand souterrain qui est sous cette maison, et c'est sous des ruines qu'on pourra la trouver. Ça m'est venu en dormant, car en dormant je pense, et je cherche toujours. Sois tranquille, Rose, et laisse-moi seule. Cette nuit, non, pas plus tard que cette nuit, je trouverai la tendresse et je t'en ferai part. C'est alors que nous serons riches. Au jour d'aujourd'hui, comme dit ce gendarme là qu'on a mis ici pour nous garder, nous sommes si pauvres que personne ne veut de nous. Et demain, Rose, pas plus tard que demain, nous serons mariés toutes les deux. Moi avec Paul, il est devenu le roi d'Alger. Et toi avec cet homme qui porte des sacs de blé et qui te regarde toujours. J'en ferai mon premier ministre. Et son emploi se fera de faire brûler à petit feu ce gendarme qui dit toujours la même chose et qui nous a fait tant souffrir. Mais tais-toi, hein, ne parle de ça à personne. C'est un grand secret. Et le sort de la guerre d'Afrique en dépend. Ce discours bizarre effraya beaucoup Rose, et elle n'osa parler davantage à sa sœur, dans la crainte de l'exalter de plus en plus. Elle ne voulut pas la quitter, que le médecin qu'on attendait à cette heure-là ne fût venu, et même elle oublia son envie de danser, et resta pensive auprès du lit de la folle, la tête penchée, les deux mains croisées sur son genou, et le cœur rempli d'une tristesse profonde. C'était un contraste frappant que ces deux sœurs, l'une si horriblement dévastée par la souffrance, si repoussante dans son abandon d'elle-même, et l'autre si bien parée, brillante de fraîcheur et de beauté. Et cependant, il y avait de la ressemblance dans leurs traits. Toutes deux aussi couvaient à des degrés différents dans leur sein, une amour contrariée, comme on dit dans le pays. Tous deux étaient tristes et graves. La moins abattue des deux était la folle, qui roulait dans son esprit égaré des espérances et des projets fantastiques. Le médecin arriva très exactement. Il examina la folle avec l'espèce d'apathie d'un homme qui n'a rien à espérer, rien à tenter dans un cas depuis longtemps désespéré. Le pouls elle-même, dit-il, il n'y a pas le changement. Pardonnez-moi, docteur, lui dit Rose en l'attirant à part. Il y a du changement depuis hier soir. Elle crie, elle dort, elle parle autrement que de coutume. Je vous assure qu'il se fait en elle une révolution. Ce soir, elle cherche à rassembler ses idées et à les exprimer, quoi que ce soit les idées du délire. Mais est-ce mieux que son abattement ordinaire? Qu'en pensez-vous?
Je ne pense rien, répondit le médecin. On peut s'attendre à tout dans ces sortes de maladies et on ne peut rien prévoir. Votre famille a eu tort de ne pas faire les sacrifices nécessaires pour l'envoyer dans un de ces établissements où des gens de l'art s'occupent spécialement des cas exceptionnels. Moi, je ne me suis jamais vanté de la guérir, et je pense que même les plus habiles ne pourraient en répondre aujourd'hui. Il est trop tard. Tout ce que je désire, c'est que sa manie de silence et de solitude ne dégénère pas en fureur. Évitez de la contrarier. Et ne la faites pas parler, afin que sa pensée ne fixe pas sur un même objet. Hélas, dit Rose, je n'ose vous contredire, et pourtant, c'est si affreux de vivre toujours seul.
en horreur à tout le monde. Lorsqu'elle semble enfin chercher quelque sympathie, quelque pitié, faudra-t-il opposer à ce besoin d'affection un silence glacé? Savez-vous ce qu'elle me disait tout à l'heure? Elle disait que depuis qu'elle est folle, oh, elle prétend qu'il y a 54 ans, elle était occupée à chercher la tendresse. Pauvre fille, il est certain qu'elle ne l'a guère trouvée. Et disait-elle cela en termes raisonnables? Hélas, non, elle y mêlait des idées effrayantes et des menaces épouvantables. Vous voyez bien que ces épanchements du délire sont plus dangereux que salutaires. Laissez-la seule, croyez-moi. Et si elle veut sortir, empêchez qu'on ne gêne en rien ses habitudes. C'est la seule manière d'éviter que la crise d'hier soir ne revienne. Rose obéit à regret. Mais Marcel, qui désirait se retirer dans sa chambre pour écrire et qui voyait sa compagne triste et préoccupée, la conjura d'aller se distraire et lui promit qu'au premier cri, au premier symptôme d'agitation de sa sœur, elle l'enverrait avertir par la petite Fanchon. D'ailleurs, Madame Bricolin était occupée aussi à la maison et la grand-mère pressait Rose de venir encore danser une bourrée sous ses yeux avant la clôture de l'assemblée. « Songe, lui dit-elle, que je songe maintenant les jours de fête, en me disant que chaque année que je verrai peut-être pas la suivante. Il faut que je te voie encore danser et t'amuser aujourd'hui. Autrement, il m'en resterait une idée triste et je me figurais que ça doit me porter malheur. » Rose ne fit point 3 pas sur le terrier, sans voir grand Louis à ses côtés. « Mademoiselle Rose, lui dit-il, votre papa vous a-t-il rien dit contre moi ?»« Oh non, 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 il m'a au contraire presque commandé ce matin de danser avec toi. »« Mais depuis ce matin, bon, je l'ai à peine vu, il ne m'a pas parlé, il paraît très occupé de ses affaires. » « Allons, Louis, dit la grand-mère, tu fais donc pas danser Rose, tu vois donc pas qu'elle en a envie. »« Est-ce vrai, mademoiselle Rose, dit le meunier, en prenant la main de la jeune fille, auriez-vous fantaisie de danser encore ce soir avec moi ?»« Je veux bien danser, répondit-elle avec une nonchalance assez piquante. » « Oh, si c'est avec quelque autre que moi, » dit grand Louis en pressant le bras de Rose sur son cœur agité, « dites où j'irai le chercher. Ben, »« Cela veut peut-être dire que vous souhaiteriez que ce ne fût pas vous, » répondit la malicieuse fille en s'arrêtant. « Vous pensez ça ?» s'écria le meunier transporté d'amour. « Eh bien, vous allez voir si j'ai les jambes engourdies. » Et il l'entraîna, il l'emporta, presque au milieu de la danse, où au bout d'un instant, oublieux l'un et l'autre de leurs inquiétudes et de leurs chagrins, ils rasèrent légèrement le gazon, en se tenant la main un peu plus serrée que la bourrée ne l'exigeait absolument. Mais cette enivrante bourrée n'était pas finie, que M. Bricolin, qui avait attendu ce moment pour rendre l'affront plus sanglant à la face de tout le village, s'élança au beau milieu des danseurs et d'un geste interrompant la cornemuse qui eut couvert sa voix. « Ma fille, s'écria-t-il en prenant le bras de Rose, vous êtes une honnête et respectable fille. Ne dansez donc plus jamais avec des gens que vous ne connaissez pas. Mademoiselle Rose danse avec moi, monsieur Bricolin, répondit grand Louis fort animé. C'est à cause de ça que je lui défends. Comme je vous défends à vous de vous permettre de l'inviter, ni de lui adresser la parole, ni de jamais passer ma porte, ni... La voix tonnante du fermier fut étouffé par cet excès d'éloquence, et la colère le faisant bégayer, Grand Louis l'arrêta. « Monsieur Bricolin, lui dit-il, vous êtes le maître de commander en paire à votre fille. Vous êtes le maître de me défendre votre maison. Mais vous n'êtes pas le maître de m'offenser en public avant de m'avoir donné une explication en particulier. « Bon, je suis le maître de faire tout ce que je veux, » reprit Bricolin exaspéré, « et de dire à un mauvais sujet tout ce que je pense de lui. « Ah, qui dites-vous ça, monsieur Bricolin ?» demanda Grand Louis, dont les yeux se remplirent d'éclairs, car bien qu'il se fût dit dès le début de cette scène, « Nous y voilà, j'ai ce que je mérite jusqu'à un certain point. Il lui était impossible de supporter patiemment un ouvrage. » « Me dis cela qui bon me semble, » répondit Bricolin d'un air majestueux, mais au fond intimidé subitement. « Si vous parlez à votre bonnet, peu m'importe, » reprit Grand Louis, essayant de se modérer. « Mais voyons un peu cet enragé, » répliqua M. Bricolin en se renfonçant dans le groupe de curieux qui se pressaient autour de lui. « Ne dirait-on pas qu'il veut m'insulter ?» parce que lui défend de parler à ma fille, n'en ai-je pas le droit ?« Oui, oui, vous en avez parfaitement le droit, » reprit le meunier, en s'efforçant de s'éloigner. « Mais non pas sans m'en dire la raison, et j'irai vous la demander quand vous serez de sang-froid, et moi aussi. »« Tu me fais des menaces, malheureux !» s'écria Bricolin alarmé, et prenant l'assemblée à témoin, « Il me fait des menaces !» ajouta-t-il d'un ton emphatique et comme pour invoquer l'assistance de ses clients et de ses serviteurs contre un homme dangereux. « Dieu m'en garde, monsieur Bricolin, » dit Grand Louis en haussant les épaules. « Vous ne m'entendez pas. Mais je ne veux pas t'entendre. Je n'ai rien écouté d'un ingrat et d'un faux ami. Oui, » ajouta-t-il, voyant que ce reproche causait plus de chagrin que de colère au meunier. « Je te dis que tu es un faux ami, un Judas !»« Ben, Judas, non, car je suis pas un juif, monsieur Bricolin. »« Je n'en sais rien, » reprit le fermier, qui s'enhardissait lorsque son adversaire semblait faiblir. « Ah, doucement, s'il vous plaît !» répliqua Grand Louis d'un ton qui lui ferma la bouche. « Pas de gros mots, je respecte votre âge, je respecte votre mère, et votre fille aussi, plus que vous-même peut-être. Mais je réponds pas de moi si vous vous emportez trop en parole. Je pourrais répondre et faire voir que si j'ai un petit tort, vous en avez un grand. Taisons-nous, croyez-moi, monsieur Bricolin, ça pourrait vous mener plus loin que vous ne voulons. J'irai vous parler, vous m'entendrez. »« Bon, tu n'y viendras pas. » « Si tu viens, je te mettrai dehors, honteusement !» s'écria M. Bricolin lorsqu'il vit le meunier qui s'éloignait à grands pas hors de portée de l'entendre. « T'es comme malheureux, un trompeur, un intrigant !» Rose, qui, pâle et glacée de terreur, était restée jusque-là immobile au bras de son père, fut prise d'un mouvement d'énergie dont elle-même ne se serait pas crue capable un instant auparavant. « Mon papa, » dit-elle en le tirant avec force de la foule, « vous êtes en colère et vous dites ce que vous ne pensez pas. C'est en famille qu'il faut s'expliquer, non pas devant tout le monde. Ce que vous faites là est très obligeant pour moi, et vous n'êtes guère soigné de me faire respecter. « Toi, toi, » dit le fermier, étonné et comme vaincu par le courage de sa fille. « Il n'y a rien contre toi dans tout cela, rien qui doive faire parler sur ton compte. Je t'avais permis de danser avec ce malheureux. Je trouvais cela honnête et naturel, comme tout le monde doit le trouver. Je ne savais pas que cet homme-là était un scélérat, un traître. Oh, tout ce que vous voudrez, mon père, mais m'en voilà bien assez, » dit Rose en lui secouant le bras avec la force d'un enfant mutiné. Et elle réussit à l'entraîner vers la ferme. Chapitre 39. Les deux sœurs. Madame Bricolin ne s'attendait pas à voir revenir sitôt son monde. Son époux l'avait consigné à la maison
sans lui dire l'esclandre qu'il méditait. Il ne voulait pas qu'elle vînt nuire par des criailleries à la majesté de son rôle en public. Lors donc qu'elle le vit rentrer, cramoisi de colère, essoufflé, grondant sourdement et traînant à son bras rose, très animé, très oppressé aussi, et les yeux gros de larmes qu'elle ne pouvait retenir, tandis que la grand-mère les suivait en trottinant et en joignant les mains d'un air consterné, elle recula de surprise. Puis élevant sa chandelle à la hauteur de leur visage, « Qu'est-ce qu'il y a donc ? » dit-elle. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?»« Mais il n'y a que mon fils, un grand menteur, et qui parle sans raison, » répondit la mère Bricolin, en se laissant tomber sur une chaise. « Oui, oui, c'est le refrain de la vieille, » dit le fermier, à qui la vue de sa moitié rendit une partie de sa colère. « Assez causé. Le souper est-il prêt ? Alors, Rose, as-tu faim ?»«
Non, mon père, » dit Rose assez sèchement.
« C'est donc moi qui t'ai coupé l'appétit ?»«
Oui, mon père. »«
C'est un reproche, ça ?»«
Oui, mon père, j'en conviens. »
« Ah, ça, dis donc, Rose !» reprit le fermier, qui avait pour sa fille autant de condescendance que possible, mais qui, pour la première fois, la voyait un peu révoltée contre lui.
« Tu le prends sur un ton qui ne me va guère. Sais-tu que ta mauvaise humeur me donnerait à penser ? Tu ne le voudrais pas, j'espère.
« Parlez, parlez, mon père, dites ce que vous pensez. Si vous vous trompez, mon devoir est de me justifier. »
Je dis, ma fille, que tu aurais mauvaise grâce de prendre le parti d'un manant de meunier, à qui je romprai mon retin sur le dos un de ces quatre matins, s'il rose autour de ma maison.
Mon père, répondit Rose avec feu, j'ose vous dire, moi, dussiez-vous me rompre votre bâton sur le dos à moi-même, que tout cela est cruel et injuste, que je suis humilié de servir à votre vengeance en public, comme si j'étais responsable des torts qu'on a ou qu'on n'a pas envers vous, et qu'enfin tout cela me fait de la peine et blesse ma grand-mère, vous le voyez bien.
« Oui, oui, ça m'afflige et ça me fâche, » dit la mère Bricolin, avec son ton franc et bref, qui cachait cependant une grande douceur et une grande bonté. Et c'est en cela que Rose lui ressemblait, ayant le parler vif et l'âme tendre. « Ça me saigne l'âme, » continua la vieille, « de voir maltraiter en parole un honnête garçon que j'aime quasiment comme un de mes enfants, d'autant plus que je suis ami depuis plus de 60 ans avec sa mère et avec toute sa famille, une famille de braves gens, oui, à qui grand le Louis n'est pas fait pour porter des honneurs.
Ah, c'est donc à propos de ce joli monsieur-là que votre mère grogne, dit Madame Bricolin à son mari, et que votre fille pleure. Regardez-la, la voilà toute larmoyante. Oui, donc, vous nous avez embarqués dans de jolies affaires, monsieur Bricolin, avec votre amitié pour ce grand âne. Vous en voilà récompensé, voyez si c'est pas une honte, de voir votre mère et votre fille prendre son parti contre vous et en verser des larmes comme si, oh, vrai Dieu, je veux pas en dire plus long, j'en rougirais.
Dites tout, ma mère, dites, s'écria Rose, tout à fait irritée, puisqu'on est si bien en train de m'humilier aujourd'hui, et qu'on ne se refuse donc rien. Je suis toute prête à répondre si l'on m'interroge sérieusement et sincèrement sur mes sentiments pour grand Louis.
Et quels sont vos sentiments, mademoiselle ? Dit le fermier courroucé, en prenant sa plus grosse voix. Dites tout ça bien vite, s'il vous plaît, puisque la langue vous démange.
Mes sentiments sont ceux d'une sœur et d'une amie, répliqua Rose, et personne ne m'en fera changer.
Une sœur ! « La sœur d'un meunier !» dit M. Bricolin en ricanant et en contrefaisant la voix de Rose.
« Une amie, l'amie d'un paysan. Voilà un beau langage et fort convenable pour une fille comme vous.
Le tonnerre m'écrase si, au jour d'aujourd'hui, les jeunes filles ne sont pas toutes folles. Rose, mais vous parlez comme on parlerait aux petites maisons. »
En ce moment, des cris perçants retentirent dans la chambre de la folle. Madame Bricolin tressaillit, et Rose devint pâle comme la mort. « Écoutez, mon père, » dit-elle en saisissant avec force le bras de Monsieur Bricolin, « écoutez bien, et osez donc rire encore de la folie des jeunes filles. Plaisantez sur les maisons des fous, vous qui semblez oublier qu'une fille de notre rang peut aimer un homme sans fortune jusqu'à tomber dans un état pire que la mort. Oh, si elle l'avoue, elle le proclame, s'écria Madame Bricolin, partagée entre la rage et le désespoir. Elle aime ce Manant et elle nous menace de tourner comme sa sœur. Rose, Rose, dit Monsieur Bricolin épouvanté, taisez-vous. Et vous, Thibaud, allez vous en voir la Bricoline, ajouta-t-il d'un ton impérieux. Madame Bricolin sortit. Rose restait debout, la figure bouleversée, effrayée de ce qu'elle venait de dire à son père. « Ma fille, tu es malade, » dit Monsieur Bricolin tout ému. « Il faut reprendre tes sens. »« Oui, vous avez raison, mon père, je suis malade, » dit Rose, fondant en larmes et en se jetant dans les bras de son père. Monsieur Bricolin avait été effrayé, mais il lui était impossible de s'attendrir. Il embrassa Rose comme un enfant qu'on apaise, mais non comme une fille qu'on adore. Il était vain de sa beauté, de son esprit, et plus encore de la richesse qu'il voulait placer sur sa tête. Il eût mieux aimé l'avoir mise au monde laide et sotte, mais inspirant l'envie par son argent, que parfaite et pauvre et inspirant la pitié. « Petite, lui dit-il, tu n'as pas le sens commun ce soir. Va te coucher, et que ce meunier et vos belles amitiés te sortent de la cervelle. Sa sœur t'a nourri, c'est vrai, mais elle a été parbleu bien payée. Ce garçon a été ton camarade d'enfance, c'est encore vrai. Mais il était notre domestique, et il ne faisait que son devoir en t'amusant. Il me plaît de le chasser au jour d'aujourd'hui, parce qu'il m'a voué un vilain tour. C'est ton devoir de trouver que j'ai raison. Oh, mon père, dit Rose en pleurant toujours dans les bras du fermier, vous révoquerez cet ordre-là. Vous lui permettrez de se justifier, car il n'est pas coupable, c'est impossible. Vous ne me forcerez pas à humilier mon ami d'enfance, le fils de la bonne meunière qui m'aime tant. Bon, tout ça commence à m'ennuyer, particulièrement, répondit Bricolin en se débarrassant des caresses de sa fille. C'est trop bête qu'il faille faire une affaire de famille de l'expulsion d'un pareil va-du-pied. Alors, flanque-moi la paix, je t'en prie. Écoute comme ta pauvre sœur braille et ne t'occupe pas tant d'un étranger quand le malheur est dans notre maison. Ouf, si vous croyez que je n'entends pas la voix de ma sœur, dit Rose avec une expression effrayante, si vous croyez que ces cris ne disent rien à mon âme, vous vous trompez, mon père. Je les entends bien, je n'y pense que trop. Rose sortit en chancelant, mais comme elle se dirigeait vers la chambre de sa sœur, on l'entendit rouler sur le plancher du corridor. Les deux âmes Bricolin à courir effrayées, Rose était évanouie et comme morte. On s'empressa de porter Rose dans la chambre où Marcel écrivait en attendant, sans se douter de l'orage où s'agitait sa pauvre amie. Elle l'entoura des plus tendres soins et eut seule la présence d'esprit d'envoyer voir dans le bourg si le médecin n'était pas reparti. Il vint et trouva la jeune fille dans une violente contraction nerveuse. Elle avait les membres raidis, les dents serrées, les lèvres bleuâtres. La connaissance lui revint quand on eut exécuté quelques prescriptions. Mais son pouls passa d'une atonie effrayante à une ardente énergie. La fièvre brillait dans ses grands yeux noirs, et elle parlait avec agitation, sans trop savoir à qui. Frappé de lui entendre prononcer plusieurs fois de suite le nom de Grand Louis, Marcel réussit à éloigner ses parents alarmés et à rester seul avec elle, tandis que le médecin se rendait auprès de Mademoiselle Bricolin, l'aînée, qui commençait à présenter des symptômes de fureur comme la veille. « Ma chère Rose, » dit Marcel, en pressant sa compagne dans ses bras, « vous avez du chagrin, c'est la cause de votre mal. Apaisez-vous. Demain vous me conterez tout cela, et je ferai tout au monde pour voir cesser vos peines. Qui sait si je ne trouverai pas quelque moyen ?»« Oh, vous êtes un ange, » vous répondit Rose en se jetant à son cou. « Mais vous ne pouvez rien pour moi. Tout est perdu, tout est rompu. Louis est chassé de la maison. Mon père, qui le protégeait ce matin, le hait et le maudit ce soir. Oh, je suis trop malheureuse, en vérité. « Vous l'aimez donc bien ?» dit Marcel, étonné. « Si je l'aime ?» s'écria Rose, « mais puis-je ne pas l'aimer ? Et quand donc en avez-vous douté ?»« Hier encore, Rose, vous n'en conveniez pas. »« Mais c'est possible, je n'en serais peut-être jamais convenu, si on ne l'eût pas persécuté, si on ne m'eût pas poussé à bout, comme on l'a fait aujourd'hui. »« Imaginez-vous, dit-elle, en parlant d'une manière précipitée et en tenant à deux mains, son front brûlant. Imaginez-vous qu'ils ont cherché à l'humilier devant moi, à l'avilir à mes yeux, parce qu'il est pauvre et qu'il ose m'aimer. Ce matin, quand on l'a calmé de raillerie, j'étais lâche, j'étais en colère et je n'osais pas le faire paraître. Je l'ai laissé vilipender, sans songer à le défendre. Je rougissais presque de lui. Et puis, je suis rentrée, prise tout à coup d'un grand mal de tête, et me demandant si j'aurais jamais la force de braver pour lui tant d'insultes. Je me suis figuré que je ne voulais plus l'aimer, alors il m'a semblé que j'allais mourir, que cette maison qui m'a toujours semblé belle, parce que j'y ai été élevée et que je m'y trouvais heureuse, devenait noire, malpropre, triste et laide, comme elle vous le paraît sans doute à vous-même. Je me suis cru dans une prison, et ce soir, quand ma pauvre sœur me disait dans sa folie que notre père était un gendarme qui nous gardait à vue pour nous faire souffrir, il y a eu un instant où j'étais comme folle aussi, et où je me figurais voir tout ce que voyait ma sœur. Oh, que cela m'a fait de mal! Et quand j'ai repris ma raison, j'ai bien senti que dans mon pauvre Louis, il n'y avait pour moi rien d'agréable, rien de supportable dans ma vie. C'est parce que je l'aime que j'ai accepté gaiement jusqu'à ce jour toutes mes peines, l'humeur terrible de ma mère, l'insensibilité de mon père, le fardeau de notre richesse qui ne fait que des malheureux et des jaloux autour de nous, et le spectacle des maladies affreuses qui frappent depuis si longtemps sous mes yeux ma sœur et mon grand-père. Tout cela m'a paru hideux quand je me suis vu seul, n'osant plus aimer et forcé de subir, tout cela sans la consolation d'être chéri par un être beau, noble, excellent, dont l'attachement me dédommageait le tout. « Oh, c'est impossible, je l'aime, je ne peux plus essayer de m'en guérir. Mais j'en mourrai, voyez-vous, Madame Marcel, car ils l'ont chassé, et j'aurai beau souffrir, ils seront impitoyables. Je ne pourrai plus le voir. Si je lui parle en secret, ils me gronderont et me persifleront jusqu'à ce que j'aie perdu la tête. Ma pauvre tête, que je croyais si saine, si forte, et qui me fait tant de mal, qu'il me semble qu'elle se brise. Oh, je ne me laisserai pas devenir comme ma sœur, n'ayez pas peur de moi, ma chère madame Marcel. Je me tuerai plutôt si je sens que son mal me gagne. Mais cela ne se gagne pas, n'est-il pas vrai? Pourtant, quand je l'entends crier, cela me déchire le cœur, cela fait passer du feu et de la glace dans mon sang. Une sœur, une pauvre sœur, c'est le même sang que nous, et son mal se ressent dans notre corps comme dans notre âme. Oh, ciel, madame, oh, mon Dieu, l'entendez-vous? Tenez, ils ont beau fermer les portes, je l'entends encore, je l'entends toujours. Comme elle souffre, comme elle aime, comme elle appelle, ma sœur, ma pauvre amie, que j'ai vue si belle, si sage, si douce, si gaie, et qui rugit à présent comme une louve. Et la pauvre rose éclata en sanglots, et peu à peu ses larmes, longtemps étouffées par un violent effort de sa volonté, devenaient des cris inarticulés, puis des cris perçants. Sa figure s'altérait, ses yeux égarés semblaient rentrer et s'éteindre, ses mains crispées pressaient les bras de Marcel jusqu'à les meurtrir, et elle finit par cacher sa figure dans son oreiller en criant d'une manière déchirante, imitant par un instinct fatal et irrésistible les cris effroyables de sa malheureuse sœur. La famille, frappée de cet écho sinistre, quitta l'aînée pour la cadette. Le médecin courut, et sachant ce qui s'était passé, n'attribua pas seulement cette violente attaque de nerfs à l'impression produite sur l'imagination de Rose par la démence de sa sœur aînée. Il réussit à la calmer, mais lorsqu'il se retrouva seul avec les bricolins, il leur parla assez sévèrement. « Vous avez commis une longue imprudence, leur dit-il, d'élever cette jeune fille en présence d'un aussi triste spectacle. Il serait opportun de l'y soustraire, d'envoyer l'aînée dans un établissement d'aliénés et de marier la cadette pour dissiper la mélancolie qui pourrait bien s'emparer d'elle. « Comment, monsieur Laverne ? Mais certainement, dit madame Bricolin, nous ne demandons qu'à la marier. Elle en a trouvé 10 fois à l'occasion. Et aujourd'hui encore, nous avions là son cousin Honoré, qui est un très bon parti. » Il aura bien un jour 100 000 écus. Si elle le voulait, elle ne demanderait pas mieux, et nous aussi, mais elle ne veut pas en entendre parler. Elle refuse tous ceux que nous lui présentons. C'est peut-être que vous ne lui présentez pas celui qui lui plairait, répondit le docteur. Je n'en sais rien, je ne me mêle pas de vos affaires. Mais vous savez bien la cause du malheur de l'autre, et... je vous conseille fort de vous conduire autrement avec celle-ci. « Oh, celle-ci, dit monsieur Bricolin, ce serait trop grand dommage, une si belle fille, hein, monsieur le docteur. L'autre aussi était une belle fille, vous ne vous en souvenez pas? Mais enfin, monsieur, dit madame Bricolin, plus irritée que pénétrée de la franchise du docteur, est-ce que vous croiriez que ma fille n'aurait pas la tête saine? Le malheur de l'autre est un accident, un chagrin qu'elle a eu de la mort de son amant, que vous ne lui aviez pas permis d'épouser. Oh, monsieur, vous n'en savez rien. Nous l'aurions peut-être permis si nous avions su que ça devait tourner si mal. Mais Rose, monsieur, c'est une fille bien organisée, bien raisonnable. Et Dieu merci, ce n'est pas un mal héréditaire chez nous. Il n'y a jamais eu de fou, que je sache, dans la famille des Bricolins ni dans celle des Thibault. Moi, j'ai toujours eu la tête froide et forte. J'ai d'autres filles qui sont comme moi. Je ne conçois pas pourquoi Rose ne l'aurait pas aussi bonne que les autres. Vous en penserez ce que vous voudrez, reprit le médecin. Mais je vous déclare que vous jouez gros jeu, si vous contrariez jamais les inclinations de votre fille cadette. C'est un tempérament nerveux, des mieux conditionnés, et assez semblable à celui de l'aîné. De plus, la folie, si elle n'est pas héréditaire, est contagieuse. Bon, nous enverrons l'autre dans une maison de santé. Allez, nous nous déciderons à cela, quoi qu'il en puisse coûter, dit Madame Bricolin. Mais il faut pas contrarier Rose, entends-tu, ma femme? Dit le fermier en se versant du vin à plein verre pour s'étourdir sur ses chagrins domestiques. Il y a des acteurs à la chantre, faudra l'amener voir la comédie. Nous lui achèterons une robe neuve, les deux s'il faut. Nous avons sa prédit et bien le moyen de lui rien refuser. Et M. Bricolin fut interrompu par Mme de Blanchemont qui lui demandait un entretien particulier.